Ohé, 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 ohé. Ah, j'en ai marre du ballon rond.
Bah, débranche ta télé, écoute des 4B.
Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant. Lettre à mes amis restés à la ville. Portrait d'un petit village de l'Ardenne namuroise, en Belgique.
Et voilà, c'est parti.
Très cher public, venez, venez, asseyez-vous et profitez. On fera tout pour vous épater. Chantez, dansez et bien sûr interprétez. Très cher public, allez, allez, maintenant c'est à vous de jouer. Levez les mains, applaudissez. Très cher public, allez, allez.
Je ne devais pas naître là, en fait.
Moi, je suis né dans le bas du village.
Ben, je suis né ici.
Ma maman est née à Bourg-Saint-Neuf.
Oui, c'est par l'amour que je suis arrivée ici.
Ah, mais je suis arrivée, j'avais 4 ans et demi.
C'était en 1957, à Pâques, la semaine de Pâques.
Depuis ma jeunesse, je viens toujours dans les Ardennes.
On est arrivé et on s'est marié l'année où on est arrivé.
Et les enfants sont arrivés après le mariage, évidemment.
Et on était amoureux de cette région.
Mon papy vient de Bruxelles et ma mamie de Villerzy.
La maison natale de ma grand-mère était ici en face.
Mes parents habitaient India, à Bruxelles. Et mes grands-parents aussi, que le grand-père, ça c'était Paul Dumayeur qu'on l'oumait. Tout le monde à Bourgogne avait des sobriquets dans le temps.
Moi, je suis née ici, dans cette maison.
Et Poupou vient de Bourgogne.
Leur maison natale était là, mais elle a été brûlée complètement en 14.
J'ai grandi ici, dans cette maison.
J'ai grandi là.
Depuis tout bébé.
Jusqu'à l'âge de 5 ans.
Sinon, jusqu'à l'âge de 6 ans, je restais en bas du village.
Mais après 14, eux ont reconstruit les maisons ici en face.
Moi, je viens de Flandre, Limbourg. Et quand je l'ai rencontré, moi, j'habitais côté Anvers.
Mes mères, elles provenaient du Bertré. Et quand ils se sont mariés, ben, j'étais de Mouge en Bourgogne.
Moi, je suis arrivée au début de la guerre.
Ça, c'était pendant la guerre 40-45.
Mais en 43, là, on est resté tout à fait ici à l'heure. Hein.
Mon père, qui est un féru de vélo, se promenant un jour dans la campagne, a découvert Bourgogne. Il avait une petite maison à vendre. Et il a décidé de venir s'installer ici.
Et ben voilà, on est arrivé parce que mon père faisait de la dépression. Il voulait la campagne, donc on a acheté une petite maison de campagne. Et voilà, on est venu habiter Bourgogne.
Et donc, ils sont arrivés en 60. Et moi, en 66, je suis arrivée et je suis née à Bourgogne.
Thank you.
Ah oui, on est originaire de Flamierche. Hein, ils sont tous enterrés là-bas, à 9 km de Bastogne. C'est de là qu'on est originaire. Mais les fermiers déménageaient tous les 9 ans. On faisait des bails de 9 ans. Hein. Mais on n'avait pas autant de choses que maintenant. On avait allé entre 25 et 30 bêtes en tout. Et puis 4-5 cochons. On vivait avec ça. Hein.
Ils sont venus de Bastogne en tracteur. Hein. À ce temps-là, il n'y avait pas de camion comme on a. Ils sont venus en tracteur, une grosse remorque. Ils sont enterrés là.
Il avait un petit tracteur, il venait de nuit avec son tracteur. Il faisait 90 km en tracteur de nuit pour emmener tout ici. C'est comme ça qu'on est arrivé à Boursaigne, là. J'ai fait ma communion solennelle en arrivant ici. J'avais 11 ans.
C'était la guerre. Ma maman était seule avec moi et avec ma grand-mère en 40, au moment où la guerre a éclaté. Et moi, j'avais quelques mois. On était sans ressources, pour dire, à Bruxelles. Alors, comme d'autres personnes, des Juifs sont venus se réfugier pendant la guerre ici à Boursaigne. Et comme ma grand-mère avait ses frères qui n'étaient pas mariés et qui avaient une grosse maison ici près du cimetière, on est revenu là pendant tout le reste de la guerre.
C'est-à-dire que pendant la guerre, ici au village, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'animation.
Mais pendant la guerre, c'est vrai qu'il y avait des maquisards, des gens qui étaient cachés. Il y avait quelqu'un du village qui était caché chez nous, qui venait dormir tous les jours à la maison, quoi. Ça devait rester fort secret quand même.
Brasseur Henri.
Mort pour la patrie.
Jadot Constant.
Mort pour la patrie.
Poncelet Victor.
Mort pour la
patrie. Luro Maurice.
Mort pour la
patrie. Luro Émile.
Mort pour la patrie.
Drapeau Clairon.
À la libération, les Américains sont arrivés et ont envahi le village pendant quelques jours. Et quand les chars sont arrivés ici, c'est vrai que les jeunes à l'époque ont sauté sur les chars et fait le tour du village. On dansait partout, hein. De ça, je me souviens parce que j'avais 4-5 ans. Hein.
Ça, c'est l'histoire. Et maintenant, on voudrait bien une maison parce que ça semble bien ici, une petite maison de vacances pour nous-mêmes, ici.
Et on a trouvé ici une maison par Internet.
Aussi à Boursaigne.
En fait, c'était mon petit ami quand j'avais 16 ans. Et puis, 20 ans après, il m'a cherché sur Facebook. Et on s'est revus comme ça, et c'était tout de suite un grand amour, et voilà.
Ça m'a marqué parce que mon frère pleurait, parce qu'il quittait tous ses copains, et voilà. Moi, j'étais plutôt contente. J'étais encore petite, donc voilà.
Donc elle est arrivée, c'est comme ça qu'on a grandi ensemble, quoi.
Ah oui, elle, c'était la rencontre, voilà. On a lié amitié, et nos parents aussi, je dois dire. Et puis voilà, on est toujours restés ensemble depuis l'école, voilà. Ma copine de toujours, quoi.
On était quand même nombreux, il y avait beaucoup d'enfants au village. Hein.
C'est dans la rue que je l'ai rencontrée, comme je n'étais pas encore à l'école. Elle jouait dehors et on a fait connaissance comme ça, quoi.
Ça fait désormais la grande Boursagne, comme Norvégien, hein. Un cousin de cousine d'œil.
Ici, à Boursagne, les enfants couraient dans le village sans aucun problème, couraient les rues, quelquefois même tout nus. Hein. Et voilà, il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant et on ne faisait pas plus attention que ça. Et donc, ben, les enfants se croisaient dans le village en permanence. Ils allaient à l'école tout seuls, traversaient la rue.
Parce qu'à ce moment-là, tout le monde jouait dehors, donc... Donc, ils se retrouvaient pour jouer, et une fille, c'est différent d'un garçon. Après, je me suis fait des copains, j'aimais bien jouer avec les garçons, moi.
J'ai 3 copains. Un copain était un peu mon copain parce que...
Et je préférais jouer avec les garçons qu'avec les filles.
Et j'ai pas de copine.
Il y avait des garçons qui jouaient au ballon près du bac par en bas. Et j'avais déjà remarqué. On avait 8-9 ans. Et on ne s'est plus guère quitté, hein.
Oui. Ah oui, des copains. On était quand même de notre génération, de notre âge. Ici à Boursagne, on était sûrs à 7-8. On allait un peu à la pêche, pas à la pêche à la ligne, hein, à la bouteille.
C'est un gamin qui allait faire sa cabane dans les bois avec ses planches, il prenait ses clous, son coca avec sa petite remorque derrière. Et...
Oui, on a fait toutes sortes de trucs ainsi, mais c'était l'occupation de ce moment-là. Et quand on était gamin, il n'y avait pas de GSM.
Ils ont des GSM à Sture comme des. D'abord comme des petites TV.
Et c'est. On en voyait même plus un qui joue dans la rue, hein, chez nous. Quand on était petit, au moins, t'étais dans les rues. Au lieu d'avoir ça, on jouait aux billes aussi, dans les écoles ou même après. Hein.
Ben oui, on jouait beaucoup dehors. C'est pas comme maintenant.
On n'allait jamais en vacances.
On était tout le temps dehors. En fait, moi, je partais au matin. Des fois, j'oubliais même de manger à midi et je rentrais le soir, quoi. Maman, on ne se tracassait pas trop. C'était la vie à la campagne.
Ici, dans le village, tu peux encore faire ça. Les enfants, ils peuvent se balader dans le village. Je trouve ça très beau, quoi. Très beau, ouais.
Quand moi, j'étais petite, le Mardi Gras, les enfants faisaient le tour comme ils font maintenant. Mais le soir, c'était les grands qui faisaient le tour du village.
On va mettre le feu, c'est pas grave.
Mais ce n'était que des hommes, hein, à l'époque.
Ça, c'était une autre époque. C'était une autre époque.
Tous déguisés, hein.
Il y avait des bimes aux mains d'Altin, nom des dieux.
D'abord, on se réunit à la chapelle, puis on fait un chemin.
Ouais. On y va.
Jusqu'au grand feu.
Le grand feu, non, on parlait pas de grand feu à l'époque.
Et comme ça, je peux rejoindre mes copains, tous mes amis.
pense des gens de temps. Je ne m'en connais pas dans l'autre sens.
Tout ça a été un peu inspiré du grand feu de Bourges qui existe depuis très longtemps. Pour moi, c'est à cette période-là qu'ils ont commencé à faire des grands feux un peu partout.
Le grand feu, on brûle un tas de sapins avec des bois et au-dessus, il y a comme la croix de Jésus et là, on prend des vêtements, on attache comme ça le pantalon et puis on remplit de papier. On met des habits parfois de lutin, un pyjama.
Dio rovaro l'hiver et bienvenue printemps.
Adieu à l'hiver et bienvenue pour le printemps.
Dans le temps, à ce moment-là, dans le village, pratiquement à toutes les maisons, ils avaient un peu de bêtes. 2, 3, 4 vaches.
C'était un village où il y avait une quinzaine de petites fermes, avec quelques vaches, un cheval, des poules, enfin voilà.
Toutes les maisons avaient un fumier devant la maison. Hein.
Un tas de bois aussi.
Il y avait des un peu plus grosses, ceux qui vivaient vraiment de ça. Ils avaient peut-être 5-6 bêtes, pas plus. Ils savaient vivre avec ça. Et puis ils avaient peut-être un petit truc sur le côté. Hein. Ils allaient au bois. Et...
Le père travaillait. Il allait au bois dans le temps. La mère, il avait 3 vaches.
C'était des petites fermes partout. Tout le monde avait un peu des bêtes. Il y en a qui en avaient 7, 8, 10, 12, et ils allaient travailler un peu à autre chose. Je pense que c'était comme ça dans tous les petits villages, moi.
Et au début aussi, on avait des chevaux. Ah, ça, c'était chouette.
Allez, hop, allez.
Donc, on allait au champ pendant l'été, mais on allait couper le foin, on allait rentrer le foin.
Est-ce que je me rappelle, mais le pire, il se levait à 4 heures au matin à l'estille. Il allait cultiver là, à le four, et puis à 6 heures, il allait travailler.
Comme c'était une ferme, on connaissait la fenaison à la main.
Parce que dans le temps, tout était manuel, hein. C'était le moment de la fenaison. C'était encore à la main, avec le râteau, la fourche, faire des petits melons.
Alors après, le père, comme il avait fauché avec les chevaux, il fallait faner. Mais là, c'était une machine avec des fourches. Alors nous, on faisait des quejets, comme on dit, des petites, comme des valdas, mais en plus gros, bien sûr.
Et puis on jouait comme des trépieds avec les jobs.
Il avait le malheur de pleuvoir. Il fallait remettre tout à zéro, étant tout sur le champ, recommencer à refaire. Et puis le foin, il était en vrac. On allait charger sur un chariot, elle déchargeait tout en vrac.
On allait ramasser les dios pour le virer, ce qu'on des charrettes à 2 rues, là.
Quand c'était sec, on les chargeait sur une remorque, on peignait la remorque, on mettait une grande perche dessus, et on mettait une sangle avec un diable pour le rentrer dans la grange, et ainsi de suite, comme ça, toute la fenaison.
Un gamin, on aimait battre tout ça.
C'était la vie à la ferme.
Allez, hop, ah, ah. Oh, la boudeur, hein? Allez, allez, hop, allez.
Et nous, on suivait derrière et on ramassait les grenouilles. Ah, c'était bon, les grenouilles, à l'époque. Elles avaient une belle couleur rose, c'est pas comme maintenant. C'est blanc maintenant, c'est pas appétissant du tout.
Voilà, allez, hop.
Alors en été, on mettait beaucoup les vaches et tout ça en pâture.
On allait les chercher le matin, on les trayait à la maison et puis on les remettait au champ.
Et nous autres, dans cette optée, eh bien, à 7h30, 8h, on remontait les vaches à la route de 26 monde. Voilà ce qu'on a à 8h30.
Et au matin, on voyait les gens qui avaient trié le matin, qui conduisaient la baie dans les pâtures. Vers 5h, ils allaient les rechercher, on retrayait le soir.
Et puis vers 5h du soir, on allait les rechercher et puis on les reconduisait le soir. Traversait le village avec le bétail. C'est ça tous les jours.
Chez nous, je me souviens de 2 vaches. Et maman s'occupait beaucoup de ça.
Il y avait peut-être 4 vaches, peut-être il y en a eu 2 de peu.
Alors on faisait du beurre.
C'était du bon beurre. On utilisait toujours le lait quand elles étaient dans les champs en été pour avoir du bon beurre, le beau beurre jaune.
Au mois de mai, le beurre était bien jaune. Et le mois d'octobre aussi.
Parce qu'en hiver, il n'était pas si bon. Quand les vaches ne sortaient plus, c'était plus si bon.
On élevait aussi des cochons.
Tout ce que nous mangions, c'était, on peut le dire, bio. Parce que c'était tout de notre production. Donc le jardin, pour commencer. Après, la viande, c'était chez nous aussi, parce qu'on tuait une bête. Et on avait nos poulets, on avait nos lapins, on avait notre cochon.
On vivait pratiquement en autarcie, hein, comme les anciens Belges, comme les Indiens. Mais on se débrouillait quand même.
C'était comme ça dans le temps. Puis après, les congélateurs sont arrivés, c'était tout à fait différent. Hein. Moins bon.
Ça commençait déjà, puis comme on dit, la modernisation. Quoi.
Et puis les tracteurs sont arrivés, ça c'était autre chose. Quoi.
Ça c'était le premier tracteur à Boursaigne. Un petit farmer d'eux, il m'a rendu souvent un con.
Une grosse évolution aussi, mais ça, c'est toujours dans le monde rural, c'est le machinisme. Maintenant, les tracteurs sont devenus énormes, des 150 chevaux.
Quand on compare la vie de maintenant, c'est le progrès. Moi, j'ai toujours dit, le progrès, il nous tuera, et c'est la vérité. Je sais bien que pour vivre, c'est fini de faire, par exemple, la fenaison au râteau. Hein. Maintenant, c'est des fermes qui ont 100, 150, 200 bêtes. Il faut que ça aille vite. Hein. Mais dans le temps, on savait vivre avec 5, 6 bêtes.
J'avais 10 ou 12 ans, peut-être, quand on s'est séparés des chevaux. On était tristes.
C'était beaucoup des familles de douaniers aussi, dont les enfants sont restés ici, au fond. Il y avait quand même 6 ou 7 douaniers sur Boursaigne. Hein.
L'adolescence, nous, on était toujours dans les champs, c'est pas compliqué. Voilà.
Et puis on a commencé à grandir. Ben, il y avait la fuite, bien sûr. La fuite, à ce moment-là, c'était autre chose que maintenant. Hein. Il y avait les manèges, il y avait un peu tout. Hein. Et puis les soirées dansantes, tout ça, c'était magnifique. C'était plus comme maintenant.
Nous, c'était organisé. Quand il y avait plein, c'était 120 personnes dans la salle. C'était pas un disco, c'était un orchestre, comme il y avait dans tous les villages. C'était du tonnerre.
Celui qui venait jouer le bal, donc la musique à l'accordéon, c'était un Delven d'Arny, c'était un Français. Ceux qui ne savaient pas jouer, lui, il chantait. C'était incroyable, incroyable. Il donnait une ambiance terrible. Il est venu des années, des années, des années.
J'avais rencontré, quand mes cousines se sont mariées, du village ici.
Ben dans un bar quelconque.
Et donc, je me suis retrouvée mon mari, que je ne connaissais pas à l'époque, comme cavalier.
En ce moment-là, les mamans sortent avec leurs filles. Hein, on ne laissait pas les filles, comme maintenant, sortir toutes seules. Hein.
Donc, j'ai fait sa connaissance là. Donc, je l'ai eu toute la soirée pour moi.
Bon, on se connaissait déjà quand même un peu, déjà.
Et puis alors, après, je l'ai retrouvé au bal. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quoi.
Il y avait deux coumères qu'on avait bien.
Moi, j'arrivais tard. Pour ne pas non plus payer une entrée, on a même eu l'avoir de l'entrée dans le verre.
Et on court après cette journée-là. Mais ça, c'était un gros master, hein, dans ce temps-là.
Alors, on restait ensemble une demi-heure. Et puis, elle disait, bon, ben, je m'en vais. Ah, ben oui, déjà, ça passe vite. Alors, on se disait à demain. Là. Et puis, on allongeait un peu plus les heures pour, au final, avoir une bague. On marie toujours la fille qui reste dans son village.
C'était terrible quand j'ai connu mon mari parce que les jeunes de Boursaigne, les jeunes hommes, il y en avait beaucoup à ce moment-là. Il n'y en a plus tant maintenant. Ils râlaient parce que c'était des Français qui venaient au bal. Ils n'acceptaient pas que je rencontre un Français.
Ouais, quand c'était la fête, il y avait une ambiance. On avait beaucoup de Français, toutes sortes. Oui.
Ils ne supportaient pas les Français, donc c'était toujours. Il y avait des bagarres terribles à ce moment-là. Alors ils venaient en bande, et quand les Français arrivaient, oulalalala, c'était chaud.
Mais ça fritait bien entre les Belges entre eux aussi, hein.
Oui, il y avait plus de bagarres dans le temps, parce que maintenant on dit, mais moi je me souviens des balles, il y avait tout le temps de la bagarre.
Ceux qui n'ont pas connu ça, c'était une ambiance.
Ben bon, à cette époque-là, lui, il partait à l'armée. Donc, il y avait beaucoup de moments où je ne le voyais pas parce qu'on ne revenait pas toutes les semaines comme maintenant.
On a fait un peu notre jeunesse, chacun de son côté. Et puis, à 16-17 ans, ben, on a parlé comme il faut. Et puis, voilà.
Une fois qu'il a fini son service militaire, ben, on s'est mariés.
On avait 20 ans.
À 16 ans, j'ai rencontré mon futur mari. Et ensuite, à 18 ans, je me suis mariée.
Et voilà, je me suis marié avec une gentille femme.
On s'aimait bien, c'est normal.
Et on a eu 3 enfants.
Bon, on s'est mariés jeunes aussi, nous deux. On a eu une courte jeunesse, hein, on va dire.
Puis j'ai reconnu le manuel sur la Grande Boursaigne, qu'elle avait 18-19 ans. Va. C'est ainsi que j'ai fréquenté, que je m'ai marié.
À ce moment-là, il y a beaucoup de filles qui allaient par l'école, et il y en a qui se mariaient très jeunes. Hein. Il y en a 18-19 ans qui avaient déjà un enfant. Ils se mariaient beaucoup plus jeunes que maintenant. Hein.
Maintenant, on ne se marie plus à des 19 ans. Hein. C'est fini, ça.
Et je suis partie, pas très loin. Je suis partie tout d'abord à Jeudine, quelques mois. Et ensuite, j'ai habité Rienne pendant 7 ans.
Mais une fois qu'on était mariés, ben, on a eu les enfants. Et puis, voilà, la vie continue. Hein. C'est plus pareil. Hein.
Et donc, après, je suis revenue à Boursaigne. Et je n'ai plus quitté Boursaigne. Parce que ici, c'est mon chez-moi, ma famille, mes racines. On habite encore un village où les traditions sont importantes, où il y a encore un esprit de solidarité, d'amitié. On n'est pas un village, on est une famille, et je pense que c'est vrai.
Je ne connais aucun village où la solidarité est telle qu'elle est ici, quoi. J'ai vécu à plein d'endroits, j'ai vécu à Tournaut, Reykjavorsol, Gans, San Diego, plein d'endroits. Mais nulle part, j'ai retrouvé cette cohésion, ce sentiment. Tu peux toujours compter sur les gens, il y a une chouette ambiance, on t'aide. On est là, quoi, tu te sens jamais seul.
On essaie d'être assez accueillant envers les nouveaux arrivants.
Dès le début, il y a quelqu'un qui m'a invité de me joindre au comité des femmes. Et bon, ça a vachement aidé pour l'intégration. Parce que, voilà, du coup, tu rencontres une grosse partie des femmes du village.
Quand je suis arrivée dans le village, la CRF, ben, c'était les femmes du village qui se réunissaient.
C'est l'Association chrétienne des femmes rurales. Alors, je me suis dit, OK, bon, c'est pas du tout mon truc. Je vais pas faire ça, ça va être des femmes au foyer, machin.
Et maintenant aussi, ça a bien changé, la CRF. Mais ça n'a plus du tout de rapport avec la foi. On n'en parle pratiquement plus. C'est tout à fait différent.
Oui, on ne fait pas des trucs catholiques, non, heureusement.
Et puis voilà, mais alors ça a évolué parce que évidemment, tout doucement, on s'est aussi un peu détaché de l'Église. Donc, on faisait un souper des femmes, rien que les femmes du village. Mais monsieur le curé était invité, c'était le seul homme présent, c'était assez rigolo. Et donc là, en fait, une fois, on a commencé à faire des petits sketchs pour animer un peu les femmes. Et puis alors, il y a eu l'aventure du cabaret qui s'est faite parce que...
On a tellement préparé nos scénettes que nos maris et nos enfants, ils sont venus nous voir en répétition. Et ils ont dit, c'est dommage de faire autant de choses pour un repas et que nous, on ne puisse pas en profiter. On ferait bien un spectacle, enfin monter une scène et alors inviter des amis. Donc le cabaret a débuté comme ça, mais ça a eu tellement de succès qu'on a répété, donc on a fait 2 séances et puis on nous a redemandé et à ce moment-là, on a fait 4 séances. Donc on a vu beaucoup plus grand, on a fait un peu de publicité et les gens aiment bien parce qu'ils nous connaissent. Ils connaissent notre personnalité, donc ça les fait d'autant plus rire.
Oui, mais j'ai entendu un mauvais bas, mais ça m'a perturbée.
C'était pas mal, celle-là aussi. On l'a refait tout de suite dans la foulée, quand on en a eu dans ses culs.
Écoutez bien au début, rythme. Écoutez bien
on s'est au début, oui.
On a été trop vite au début.
Mais prenez modèle sur L2 parce qu'elles sont joviales, quoi. C'est encourageant.
Ouais, mais en fait, c'est parce que je suis pas joviale dans la vie, donc je le mets dans la chanson. T'es en minorité ici. Hein.
On y retourne ?
Ouais.
On y va ? Je lance.
Bam, 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 bam. Bam 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 2018 c'est cabaret rien ne pourra nous arrêter la pluie le vent et les ouragans ne nous empêcheront pas de rigoler 2018 c'est cabaret vous êtes là comme à chaque fois et on espère vous régaler 2018, c'est cabaret.
Bah, au début, on devait chercher dans les livres humoristiques, donc le petit théâtre de Bouvard, il y avait la télé aussi.
Tout le monde cherchait un petit quelque chose pour jouer, un sketch. Voilà, moi, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est pas mal. Une autre, regarde, moi, j'ai trouvé ça.
Oui, on a pris beaucoup du petit théâtre de Bouvard.
Et j'avais trouvé une fois un truc sur un curé. Je dis, tiens, on pourrait une fois tourner quelque chose là-dessus. Ce serait pas mal.
On essayait de ne pas trop faire trash, pour ne pas... puisque c'était catholique. Hein.
On jouait des petits trucs en wallon, mais je ne pense pas qu'il y avait le curé déjà. C'est après que le curé est venu.
Et puis alors, ben, ça a évolué, parce qu'avec Internet et tout, donc on a eu beaucoup plus d'idées. Mais on essaye quand même de ne pas faire trop, même si on a peut-être un peu plus osé que d'autres.
Mais bon, ça, toujours avec humour, hein. Donc, il y a des choses qu'on peut dire avec humour qu'on ne dit pas, qu'on ne dirait pas sérieusement, quoi.
Et donc, voilà, on reprend les sketchs qui nous font bien rire et on essaye de les remettre un peu à notre sauce. Notamment, on avait un sketch des Inconnus où on est allé filmer dans les bois, voilà. Ça, c'était quand même un grand moment d'aller filmer ce truc-là.
Septembre à l'aube. Dans le pays du Bourguignon, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse. Celle de la gélinotte cendrée, une véritable passion pour ces hommes que nous avons suivis pendant 24 heures.
Lolita, 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 Lolita,
c'était des chasseurs qui chassaient la gélinotte fendrée. Et donc, on était dans les bois, on faisait semblant de se cacher, mais on était un peu des gros navets de chasseurs. Et donc... On a essayé de refaire un peu la même chose, et voilà. Avec que des femmes, évidemment, toujours des femmes qui jouent des rôles d'hommes. C'est ce qui fait aussi souvent rire au cabaret, quoi.
Il y a d'ailleurs des hommes à qui ça ne plaît pas.
Parce que la chasse tient une place importante ici à Bourgogne et aux alentours.
Maintenant, les femmes qui font partie du cabaret, ils sont d'office assez libérés ou assez émancipés et leur homme n'est pas machiste.
Oui, c'est une façon de s'émanciper, d'avoir ses propres activités par rapport aux hommes, d'avoir l'occasion de sortir de sa routine pour faire quelque chose entre femmes, sans rendre de compte, sans... Je parle pour les générations passées, hein.
Quand on fait ça ensemble, c'est quand même une belle communion, même s'il y a des petits heurts et des disputes, ça ne manque jamais. Mais je veux dire, c'est quand même enrichissant à tout point de vue.
Quand je vois les femmes ici, tout ce qu'ils font et ils travaillent, en plus de gérer leur famille, leur maison, ouais, leurs enfants, leur homme, voilà.
Cette année, on a eu des jeunes qui se sont intégrés, des belles personnes qui nous ont donné énormément d'énergie et de positif, malgré leur travail, malgré qu'elles ont des enfants.
On a des contacts entre nous, que ce soit le haut du village, le bas du village. Tout le monde se mélange, alors que je remarque que dans les villages alentours, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il y a cet esprit. L'esprit des femmes est bien loin d'être présent comme ici. C'est flagrant, flagrant.
Les gens ont été heureux de voir que dans notre petit village, un petit village comme Boursaigne, il y a 130 habitants, qu'il se passe quelque chose comme ça. D'ailleurs, on en parle dans toute la commune. Hein.
Et puis arrive septembre avec, à l'époque, la récolte des pommes de terre, des pommes, etc.
Quand ça c'était au mois de septembre, octobre, la nougette Cheyenne, ah ben, pas, il y a des noisettes. Et on ramassait ces nougettes-là pour avoir des réserves d'olivières. Quand ça c'était le moment des champignons, ben ça c'était quand même.
Bon, vu qu'ici t'es dans la nature, tu vis vraiment les saisons, quoi. Quand c'est l'automne, tout devient brun, les feuilles tombent.
Mais moi, en tant que forestier, les saisons, c'est évidemment primordial. Quand on vit en extérieur à 80%, on vit les saisons pleinement. À partir du moment où, du 1er novembre, quand les feuilles tombent, la forêt prend un tout autre aspect et on peut enfin travailler. Quand la forêt est pleine de feuilles, pleine de chenilles, de toiles d'araignée, c'est quelquefois très pénible de circuler.
Mais la saison que j'aime le moins, c'est l'automne. Parce que l'automne laisse place à l'hiver, tandis que l'hiver laisse place au printemps.
Mais j'aime bien l'automne aussi. Je trouve que c'est une belle saison, l'automne, dans les bois. Peut-être parce qu'il y a les champignons.
Quand c'est les cerfs qui brament, moi, quand je vais dehors fumer une cigarette, ben, je suis dans mon jardin et je les entends, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux aller dans ton jardin et entendre les cerfs qui brament. J'adore ça.
Quand on est arrivé ici, les populations de cerfs étaient vraiment minimes. On avait ce qu'on appelait le cerf de taillis, c'est des petits cerfs qui, en général, vivaient 4-5 ans au maximum, et donc qui ne développaient pas des grands bois. On est maintenant des populations de cervidés qui sont plus de 10 fois ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, moi, j'invitais des amis ou la famille, et on allait écouter le brame. Et de temps en temps, on entendait un coup de gueule dans le lointain, mais à des kilomètres, et on était fiers, on avait entendu le brame, quoi. Maintenant, il y a tellement de cervidés, ça brame ici, juste derrière la maison, à 150 mètres de la maison, même pas. Il n'y a plus moyen de dormir avec les fenêtres ouvertes. S'il y a un peu de bon temps en septembre, octobre, ben, il y a des mobilettes partout dans les bois, il n'y a plus moyen de fermer l'œil, quoi. Donc, c'est même devenu banal pour nous. Ben, on n'écoute même plus bramer, c'est plus intéressant.
L'autre jour, je vais travailler, puis il y a 4-5 cerfs qui passent à 2 mètres de ma voiture. Alors, je me suis arrêtée et j'étais là en complète... waouh, c'est magnifique Alors, j'ai arrêté la voiture, je les ai regardés passer, je les ai regardés aller dans le champ. Ça a fait ma journée, quoi. C'est des trucs que tu peux vivre ici. C'est top, c'est top.
Et puis arrive la dernière récolte de l'année, qui était la chasse. Donc fin septembre, début octobre, la chasse commençait. Et c'était vraiment pour moi la dernière récolte. Quand on avait récolté tout dans les jardins, mais il restait une chose à récolter, c'était le gibier, quoi. Donc ça, c'était vraiment la dernière récolte. Et aussi, je veux dire, un peu la fête pour les gens du cru qui traquaient, qui chassaient encore à l'époque sur leur propre territoire. Il y avait des petites sociétés de chasse. Bon, maintenant, c'est plus possible financièrement de pratiquer la chasse, donc ça se perd aussi, si ce n'est que les gens traquent.
Des automnes, ou alors ça c'était la chasse. On ouvrait grand les portes de la grange et tout le gibier était pendu dans la grange. On allait voir le gibier qui avait été tué. Ça c'était l'automne.
Ce que j'aime le moins, c'est octobre, novembre, décembre, les deux, trois derniers mois de l'année. Il fait noir tout le temps, il fait moche.
J'aime pas du tout l'heure d'hiver, parce qu'il fait noir très vite. Voilà, c'est sombre, quoi. En hiver, bah, tu pars travailler, tu reviens, il fait déjà noir.
Oui, hein. Au mois d'octobre, ça y est, c'était déjà ça. Hein. Au mois d'octobre, il y avait déjà de la neige, il gelait déjà fort, hein, jusqu'à mars. Hein. Mais ça, c'était... Il y avait de la neige pendant... Là, sans qu'elle ne s'en aille, hein, pendant 3 semaines, 1 mois, des fois.
Et en l'hiver, il y avait 50 cm du nif.
Ah, ben, en hiver, on allait au bois. Alors, il y avait, à cette époque-là, la fouave. C'est-à-dire qu'à la commune, il y avait un numéro, comme à la loterie, quoi. On tirait un numéro, c'était sa part de bois. Mais on ne savait pas si c'était à plat ou si c'était comme ça. Alors, quand le père avait soigné son bétail, eh bien, on allait au bois. Ou même qu'il y avait sans neige, on faisait à cette époque-là du feu, donc ça fondait. On faisait aussi l'omelette, le lard, comme on fait encore actuellement avec le petit-fils.
Avant, il prenait comme une boîte de conserve, il mettait de l'huile. Maintenant, il met de l'huile sur le feu. Et papy, pour cuire du lard, il prend un bâton et puis il taille. Et puis il accroche le jambon et puis il fait le cuire.
J'aime bien ça. La poêle, une baguette, et voilà, quoi. On casse les œufs et...
L'omelette, lui, il a 2 grandes casseroles qu'il a mis en grand bois. Il a vissé, puis on casse les œufs dedans, puis ils posent et ils font cuire. On les mange parfois dans une tartine ou sans la tartine.
Mes parents n'étaient pas très aisés, donc voilà. Mais ça, c'est rien, ça. C'est des bons souvenirs. La cuisinière au bois. On mettait nos pieds dedans quand on allait dans la neige. On rentrait, on mettait les pieds dans le coffre de la cuisinière pour se chauffer. Ouais.
On avait les deux pieds dès le feu, quoi. Une cuisinière à crapaud, en triangle. Et on lisait un livre. Mon grand-père, quand il venait, il nous emmenait des livres de Tintin, du Bob et Bobette, tout des livres de Dantin, on lisait tout ça.
Et les chambres à coucher, ben, il n'y avait pas de chauffage, hein, il n'y avait pas de radiateur, rien du tout. Donc, on avait des briques réfractaires, on mettait ça dans le four, Quand les briques étaient bien chaudes, on enveloppait ça dans du journal, un papier journal, et puis on allait coucher avec. Ou alors des bouillottes aussi. On avait des bouillottes, de l'eau bien chaude, et puis pareil, quoi. Mais pas de chauffage, hein. Non, non. Ouais, parce que c'était des hivers quand même. Ça durait. Et gelait bien fort.
Ah non, une fois que l'hiver arrivait, ça, on disait, c'était l'hiver.
Et alors, à l'époque, il n'y avait pas des doubles vitrages. Donc, quand il gelait bien, le matin, c'était magnifique. Il y avait des belles fleurs sur les carreaux. C'était beau. Alors, comme on ne voyait plus au travers, avec son haleine, on faisait chauffer la vitre et on avait un petit rond pour voir ce qui se passait à l'extérieur.
Oui, la saison était peut-être plus marquée. On avait plus d'hiver, hein. il faisait beaucoup plus froid. Je sais qu'on allait à la messe de minuit à Noël qui faisait des moins 20 et tout ça, mais maintenant on n'a plus ça.
Bon, ben l'hiver, il y avait les jeux de cartes aussi, comme il faisait noir. À 7 heures, le père, il avait fini de soigner, donc on avait soupé et tout.
Je me rappelle qu'il y allait jouer aux côtes, par exemple, à Cocol. La vie de vie, hein, t'es déjà avec 65, 70 ans. Hein.
On descendait chez des vieilles personnes. Et on allait jouer aux cartes. Nous, c'était le début de la télévision. On a regardé ça.
Quand on a commencé à voir la télévision, il y a eu une télévision communale, hein, qui était donc dans la salle communale et qu'on mettait tous les soirs. Et il y avait des bancs ou des chaises. Hein, et les gens pouvaient aller voir la télévision à la salle.
Je me rappellerai quand le père a acheté la télévision. C'était comme noir et blanche. Il avait mis une antenne au gurnis. Et alors, man, la TV ne va pas. Attends, on va le gurnis tourner l'antenne. Elle avait mis ça sur deux fils à linge. Et alors, on tournait. On avait Jack Bruxelles.
Et vers 9 heures, c'était la coupure de courant, 9 ou 10 heures. Ah oui, à cette époque-là, c'était que les poteaux en bois.
Et donc, on se trouvait régulièrement en panne de courant, des soirées entières. Et à ce moment-là, ben, on allait à la bougie, chez les voisins, et on allait jouer aux cartes jusqu'à toutes les heures. D'autres faisaient peut-être, en profitaient peut-être pour faire d'autres choses, mais le jeu de cartes était vraiment de mise.
On jouait aux cartes, on était toujours à 7-8, à 8, oui, on jouait souvent à 8. Et c'était toujours les 4 mêmes contre les 4 mêmes. C'était pire qu'une fête. Incroyable.
Et on riait beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'humour à l'époque. Et puis les soirées en hiver, ben, on allait se souhaiter la bonne année. Ça durait un mois parce qu'on allait chez le voisin, puis on allait chez l'autre, et puis on les recevait. Ben, ça durait presque un mois. Hein.
Il n'y a plus de rapport avec les saisons de mon enfance parce que le printemps était le printemps, l'été était l'été, l'automne était l'automne et l'hiver était l'hiver. Moi, je me souviens que quand il neigeait, ben, on avait de la neige jusqu'à la moitié de la porte d'entrée, quoi. Et c'était vraiment la neige. Et c'était branle-bas de combat. Plus rien ne circulait parce qu'il y avait énormément de neige. Mais voilà, les hivers étaient comme ça.
Maintenant, les dernières années, il n'y en a presque plus. Mais avant, on avait plein de neige. C'était génial. J'adorais ça. Il y a un endroit ici, ça s'appelle les Trois Bosses. Et on allait avec la luge et c'était génial, quoi. Maintenant, c'est dommage. Je trouve vraiment que le climat, il change. Ces dernières années, il y a beaucoup, beaucoup de vent. C'est fou, c'est un truc fou.
Non, mais c'est vrai que les saisons étaient plus marquées et puis les gens vivaient plus au rythme des saisons.
Oui, mais c'est véridique, ça, hein?
Oui, oui, oui. Oh, oui, oui, oui. Incroyable, mais vrai. Des fois, quand je raconte ça à ceux plus jeunes, ils me disent « t'as bu un verre trop, là ». Oui, on n'a jamais eu le temps de s'ennuyer.
J'ai gardé de très bons souvenirs. Ouais. Ça reste à vie, tout ça. Hein. Ça revient...
C'est ça, le fin de vie, c'est profiter, c'est avec les copains, discuter. Et tous ces gens-là sont vous. Dieu me disait qu'à durer 65 ans, on irait causer rien que main l'autre. Eh bien, me voilà tous comme un pierre d'eux.
Ben non, c'est la vie. On avance et tout le monde est passé par là. Non, je regrette pas. C'est comme ça. On a eu des bons moments, on en a eu des moins bons. Voilà. Et maintenant, c'est pareil. Hein. Non, on va pas regretter. Des bons souvenirs, quoi. Voilà.
Je suis une flardanaise, voilà. Je ne suis plus flamande, je ne saurais jamais être vraiment ardennaise parce que je ne suis pas d'ici. Mais je suis une flardanaise et très fière de l'être, quoi. Je resterai ici dans ma maison avec ma fille, voilà, oui.
Mais je me plais encore bien pour ça, hein, je ne voudrais pas. Je ne voudrais jamais le quitter pour tout l'or du monde.
Je verrais ma fin de vie ici plutôt qu'à Bruxelles. Mais quand?
Moi, j'aimerais vieillir chez moi. Et je me dis qu'il y a plein d'aides maintenant qui existent. Ben voilà, je prendrai mes repas au CPS. J'aurai l'infirmière qui viendra m'aider à faire ma toilette si c'est nécessaire. Et puis voilà.
Mais j'ai quand même 77 aussi, hein, ce que c'est. Ça commence à...
Puis je peux rester chez moi, entourée des miens.
Non, moi, j'aurais bien ma fin de vie tranquille chez moi. Si je pouvais tomber là, hop, terminer tranquille.
Puisque toute la famille est enterrée ici, hein, j'ai toujours dit depuis que j'étais toute jeune, moi, je reste pas toute seule à Bruxelles. S'il m'arrive quelque chose, on doit aussi me reconduire. Et de toute façon, l'au-delà, ce sera à Boursaigne.
Mon futur, ma fin de vie, je ne la conçois pas ailleurs qu'ici. Je ne vais pas dire que j'ai ma place au cimetière, mais il y a déjà des instructions qui ont été données pour ce qu'on fera avec mes cendres.
J'ai pris note.
Je ne suis pas encore prête.
Finalement, ma famille est enterrée ici, donc j'avais des ancêtres qui étaient très voyageurs et moi, mes racines sont ici. Voilà, mes racines sont ici.
C'est comme ça que c'est parti.
Échec unique, venez, venez, asseyez-vous et profitez. On fera tout pour vous épater. Chantez, dansez et bien sûr interprétez. Échec unique, allez, allez, maintenant c'est à vous de jouer. Levez les mains, applaudissez. Échec public, allez, allez.
Lettre à mes amis restés à la ville.
Ce qui sera bien, c'est qu'un jour, je ferai un sketch en wallon.
Oh là 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 là.
Ouais, ça sera bien.
Avec son accent flamand.
Un documentaire radiophonique de Quentin Jacques, produit par Deux Temps Trois Mouvements.
Il faut du temps, parce que le wallon, c'est pas facile.
Il suffit d'étudier, hein.
Et donc, il va falloir beaucoup d'entraînement pour arriver à ça.
Oui,